Oui, je suis Martha Gilly. Je suis la directrice artistique commissaire de l'exposition de Panorama 26, qui a lieu en 2024.
Donc, comme chaque année, Panorama présente des œuvres d'artistes, on va dire, qui ont fait leur parcours d'études, enfin de fin d'études ou du moins de fin de projet ici, et des professeurs qui les ont peut-être accompagnés ou peut-être qui sont venus présenter, se confronter à leur travail.
Oui, tout à fait. En fait, l'exposition Panorama a été toujours dédiée aux étudiants et étudiantes qui passent 2 ans ici au Frénois. Donc, cette exposition intègre les étudiants et étudiantes de première année et les étudiants et étudiantes de deuxième année, plus les artistes enseignants qui ont été invités en 2024 à rejoindre le Frénois pendant cette année. Donc, il y a une cinquantaine d'œuvres dans l'exposition.
Ces œuvres, elles n'ont pas forcément chaque année un thème particulier. Les étudiants ont une liberté quant à leur sujet. Comment on peut rassembler toutes ces œuvres et en faire quand même une présentation qui explique la temporalité de cette exposition?
C'est le grand défi du commissaire ou de la commissaire de chaque année. Hein. C'est-à-dire que normalement, un commissaire peut choisir les œuvres et les artistes pour construire son expo. Ici, c'est le contraire. Et ça, c'est le défi que je trouvais extraordinaire parce que finalement, il s'agit de créer avec tous ces cinquantaines d'œuvres un sort de lieu commun dans tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des envies, est-ce qu'il y a aussi des évocations, ça que j'appelle des cosmovisions, qui suivent une sorte de ligne, des intérêts. Donc, moi, je me suis proposé de poser plutôt des questions, et tous les parcours est parsemé de plusieurs questions qui sont parfois communes entre 2, 3, 4, 5, 6 artistes en même temps. Donc, j'ai divisé l'exposition en 3 parcours, même si les parcours, ils sont pas signalés. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire de petites sections closes, mais justement de laisser les spectateurs qui a déjà quand même un exercice assez complexe hein, de se balader pour toutes ces installations. Ce ne sont pas des œuvres de contemplation. Ce n'est pas des peintures, ce n'est pas de la photo, ce n'est pas une sculpture qu'on peut s'arrêter et contempler et avoir une expérience émotionnelle. Ici, il s'agit d'installations assez complexes qui utilisent toutes sortes de supports cybernétiques et d'images, de la photo à la vidéo, le cinéma, que ça on connaît déjà, mais aussi la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus de complexité, de supports, mais il y a toujours l'envie, quand même, d'évoquer la réalité. Et c'est pour ça que l'exposition, je l'ai intitulée toute ressemblance avec la réalité n'est pas une pure coïncidence. C'est parce que même avec le récit le plus fictif ou qui peut paraître apparemment d'une fiction apabouillante ou de science-fiction même ou de cosmoronis, il y a toujours une évocation à la réalité, à notre vie vécue aujourd'hui.
Donc la réalité, l'image, le son et la réalité virtuelle, technique qui est maintenant est bien développée. Donc, qu'est-ce que la réalité virtuelle peut apporter, peut-être dans l'intimité du spectateur?
La réalité virtuelle, en fait, c'est ces projets qui sont très individuels finalement, parce qu'on se met un casque. On ne voit rien à l'extérieur, on est vraiment concentré dans cet espace, et du coup, c'est une expérience personnelle. Il n'y a pas une expérience des groupes avec la réalité virtuelle. Donc, du coup, on est confronté à un récit, une histoire, dans laquelle nous, on est à l'intérieur. On se sent participe. On est presque des voyeurs là-dedans. Donc, ça fait toute une expérience différente. C'est-à-dire qu'une fois on ôte les casques, au bout de 7, 8, 15 minutes maximum, chaque pièce, c'est plus ou moins la durée moyenne. Et on se sent vraiment dans un autre, comme une sorte de, on est une sorte de flottement dans la réalité. Un flottement qui vient justement de cet moment, de cet espace de temps dans lequel tout est figé à l'extérieur pour se concentrer sur cette pièce en concret.
Donc il y a ces relations assez intimes finalement entre une personne, le créateur et peut-être les gens qu'il veut faire intervenir dans son espace virtuel. Et puis il y a des préoccupations qui sont universelles. Le cosmos intervient beaucoup cette année.
Oui, c'est vrai. Il y a tout cette. C'est pour ça que je les appelle cosmovision. Dans cette section de l'expo, qui sont pas des sections, mais ce sont des évocations. Il y a une sorte d'envie d'aller chercher l'essence de ce qui se passe aujourd'hui au-delà de la réalité. Mais cette au-delà, elle devient aussi réelle. Vous allez voir, par exemple, dans cette première cosmovision que j'ai appelée, elle tourne autour des promesses rompues et de politique de la consolation. Comment on va se consoler aujourd'hui quand les promesses, je dirais, économiques, politiques, intimes, relatives aux valeurs qu'on a toujours connues, ils sont rompus, les promesses du capitalisme, les promesses aussi de la technologie. Qu'est-ce qui nous promet la technologie, la cybertechnologie nous promet l'accès direct aux des informations, éviter toutes les erreurs. Parfois, certains des artistes, ils vont chercher au-delà pour trouver une sorte de consolation.
Donc il y a ces promesses non tenues.
Oui, c'est ça.
Et puis il y a aussi, on peut dire, les mensonges anticipés maintenant.
Ben, c'est très joliment dit. Je dirais que, en fait, c'est des fictions qui anticipent de futures réalités. Ça nous était arrivé, vous vous souvenez, pendant le Covid, pendant la pandémie, on se disait, mais ça, c'était comme si c'était une science-fiction. On a déjà vécu ça dans des films de série V américaine ou pas américaine, peu importe, où il y a cette sorte de confinement, des virus qui nous attaquent, je ne sais pas quoi. Donc, il y a une sorte de quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, mais qu'on sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas si fictionnels que ça.
Alors, on a effectivement cette impression à voir l'ensemble ici d'interrogations, de préoccupations. On n'a pas forcément la frayeur, alors que le monde est quand même dangereux. Ça reste soft, finalement.
Ah, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a aussi toute une partie d'artistes qui travaillent sur la normalisation du paysage de la cruauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le paysage de la cruauté? C'est cette façon de promouvoir la violence entre les gens, soit des minorités ethniques, de genre, n'importe quoi. C'est-à-dire, quand les êtres humains sont traités comme des choses, finalement, par exemple, il y a des artistes dans cette exposition qui ont évoqué l'immigration et l'impossibilité de se rendre chez eux, de voir créer chez eux ici, en sachant que leurs familles, ils sont dispersés, ils n'ont pas la possibilité de traverser des frontières, par exemple. Donc, il y a aussi pas mal de projets qui évoquent toutes ces situations politiques, aussi en réalité virtuelle. Par exemple, il y a une artiste qui travaille sur un ami qui est resté en Donbass, où il y a une guerre depuis 10 ans. Il y a toute la reconstitution de son appartement qui est perdue, qu'il a plu. Cette reconstitution a été faite parmi ses souvenirs à lui de ce lieu dans lequel sa mère aussi est décédée. Donc, je pense qu'il y a pas mal de projets qui sont de l'ordre de politique, de la situation politique, économique aussi, des restrictions de mouvement des individus qui sont aussi présentes.
Donc, la chance du Frénois, c'est d'avoir des artistes qui viennent du monde entier, qui échangent au travers de leur travail présenté des visions du monde et des préoccupations différentes.
Tout à fait. Ça, c'est la richesse de ce mini-monde au Frénois, avec des étudiants qui viennent de partout, de Chine, de Taïwan, de l'Amérique latine, d'Europe, voilà, et qui apportent aussi leur cosmovision. Et c'est ça, c'est la richesse. Et aussi, l'autre richesse du Frénois, c'est que chaque année, ils ont des artistes enseignants complètement différents. Donc, ça fait qu'il n'y a pas une ligne, même s'il y a toujours une ligne, mais que chaque prof apporte aussi, comme artiste déjà, pas consacré, mais quand même avec une activité artistique et professionnelle de longue durée, qui apporte une vision complètement différente. Moi, je trouve que ça, c'est une richesse.
Voilà, 26e édition, c'est important, bien sûr.
Bah, c'est super important. Et il y a une chose qui est aussi très importante, que je ne veux pas oublier, c'est qu'il s'agit de l'équipe fixe Frénois. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de techniciens très spécialisés dans tous les supports qu'on a évoqués et d'autres qu'on n'a pas évoqués encore, et qui accompagnent les artistes, et les artistes enseignants et les artistes. Et toute cette équipe de techniciens, mais aussi toute la partie administrative, fait que le Frénois, c'est vraiment un exemple.
Unique au monde, enfin au moins en France.
Tout à fait. En France, c'est sûr, et je dirais qu'en Europe aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.